Bonjour, merci d'écouter le Grand Face à Face. Tous les week-ends, vos rendez-vous jusqu'à 13h, la semaine des humoristes de France Inter, le duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein. Et puis le temps de l'écologie est-il venu? Ce sera le sujet du débat tout à l'heure. Les signes ne manquent pas qui indiquent l'importance prise par les questions écologiques dans le débat politique, sans même parler du score à deux chiffres de la liste Jadot aux élections européennes. Mais attention à ne pas confondre les enjeux réels comme l'accélération du réchauffement climatique et ce qui relève de l'éco-idéologie. C'est la formule du philosophe Jean-Pierre Le Goff. Comprenez le discours de certains écologistes, ceux qui annoncent l'apocalypse, dit Jean-Pierre Le Goff, pour faire prévaloir leurs idées et qui veulent faire le bien des êtres humains malgré eux. Jean-Pierre Le Goff parle même de religion écologique, un point de vue qui l'étonne et une thèse dont nous débattrons avec lui dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous savez que Radio France est engagée dans l'opération Plastique Non Merci. Bientôt, Gilles, on ne trouvera plus de bouteilles d'eau en plastique, ni de gobelets en plastique pour le café comme celui que vous avez devant vous. Comment est-ce que ça se passe dans les bureaux de Marianne, Natacha?
Moi, j'ai mon thermos.
Ça, c'est vrai. J'en suis témoin. Vous prenez toujours avec votre thermos.
Bah, j'avoue que pour avoir lu beaucoup d'articles quand je faisais des revues de presse sur le nombre de milliards de gobelets en plastique qui sont jetés par an, je suis arrivée à la conclusion que c'était absolument effrayant et qu'il fallait quand même éviter ce genre de choses.
Vous vous sentez coupable avec votre gobelet?
Très, mais nous avons à la Fondation une fontaine. À la Fondation Jean Jaurès, une fontaine avec des gobelets. Non pas en plastique, mais des gobelets
en carton.
Voilà.
Bravo.
Mais est-ce qu'ils sont légèrement plastifiés à l'intérieur? C'est toute la question.
Les gobelets
en carton, bien sûr.
Le diable est dans les détails, Gilles. Avant votre duel à tous les deux, la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par François Audouin. Et pour commencer dans l'actualité, la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains. Une info qui a pris de court beaucoup de monde et notamment à France Inter. Explication de Daniel Morin.
Elle est folle de rage! Laurent Wauquiez qui démissionne hier en direct face à quelqu'un qui n'est pas elle. Léa Salamé ne supporte pas! Et la tradition alors, et le savoir-faire du service public, et la réputation de Madame Léa, et la jurisprudence Nicolas Hulot. Il en fait quoi, Lolo Wauquiez? Quand elle est arrivée, elle s'est précipitée dans le bureau face à Nicolas. Ça a valsé, croyez-moi. Mais quel con celui-là! Quel con! Mais il se prend pour qui, bordel de merde? Non mais il se prend pour qui? Les démissions en live, c'est moi! C'est à moi qu'on dit ça! C'est à moi de faire semblant d'être surprise, c'est pas à quelqu'un d'autre! Qu'est-ce qu'il a été faire ça sur TF1? Non mais TF1! Allô quoi? Allô? En plus, il le fait devant Anne-Laure Coudray. Anne-Laure Coudray, la meuf qui fait la même tête quand elle annonce un attentat, une manif ou les résultats du loto! Anne-Laure Coudray! Mais l'état de grâce, c'est moi! C'est pas Anne-Laure Coudray!
Le départ de Laurent Wauquiez a suscité beaucoup de réactions. Guillaume Meurice est allé rencontrer des Français traumatisés.
Le salut.
Lolo. Lolo nous a quittés. Lolo Wauquiez est parti. L'égérie des poivres et sel. Notre maître à tous. Lolo qui s'en va, c'est évidemment tout le monde du bullshit qui est en deuil. Lolo qui s'en va, c'est 12 000 postes de fact-checkers qui disparaissent. C'est les décodeurs du monde en chômage technique. C'est AFP factuel en PLS. C'est un peuple français sous le choc que j'ai retrouvé ce matin. Un peuple qui rend hommage au grand homme.
Je regrette.
Oui, c'est vrai, faut regretter. Est-ce que vous attendiez à cette décision ou alors c'est quelque chose un peu soudain?
Disons que je connais Wauquiez, enfin je l'ai connu. C'est quelqu'un sur lequel on pouvait compter.
Il est fiable.
Oui. Pour les adolescents, c'est pas mal du tout. Les adultes lui disent, écoute, tu regardes Wauquiez, tu écoutes bien ce qu'il fait, hein, et si ça te plaît, go.
Eh oui, c'était un modèle, là, ça on oublie de le dire, on a tous été élevés comme ça, ados. Moi, quand j'avais un problème, je me disais toujours, qu'est-ce qu'aurait fait Laurent Wauquiez? Ah voilà, c'est pour ça que j'avais des posters de Charles Pasqua dans ma chambre, et que mes premiers émois sexuels, c'était Margaret Thatcher, et Charles Pasqua aussi, qui êtes-vous pour me juger?
Et l'effondrement de la droite qui choque même les anciens cadres de LR. Charline Vanhoenacker nous explique pourquoi.
Salut Schenkel, ça fait un bail, dis donc. Un an que je vis aux States et je regarde les replays du journal de TF1 et sapristi. Mais qu'est-ce qui arrive à mes anciens collègues de la droite? Même Bruno Le Maire s'est devenu un cadeau à côté, je comprends plus rien. What the fuck, I'm lost, fail. Quand je regarde les infos françaises à la télé, je ressens un peu ce que Gérard Collomb doit vivre depuis son canapé à Lyon quand il mate les manifs du samedi sur les Champs-Élysées. J'ai de la peine pour mes potes de la droite, j'imagine qu'ils rêvent tous de pouvoir remonter le temps pour revenir à ce fameux 20 novembre 2016 qui a changé leur destin. Ce jour où ils auraient dû voter pour moi alors qu'ils m'ont placé en 4e position de la primaire de la droite. Big mistake, guy! Hein, mais c'est too late! De toute façon, sans moi, c'était sûr que la boîte allait couler. Il aura fallu que 14 mois après mon départ pour que le parti soit réduit en miettes. Anyway, j'ai vu que Gérard Larcher était très impliqué dans la reconstruction du parti. C'est vrai, Christian, tu confirmes, GG. Mais vous savez que c'est un parti politique que vous allez redresser, hein, pas un restaurant. Hein. Ah, le renouveau avec Gérard Larcher et Jean Leonetti, l'effet waouh. Hein. Faites gaffe parce que bientôt c'est l'été. Hein. Si on a droit à une grosse canicule, faudra déjà retrouver un nouveau renouveau en septembre. Anyway.
Et puis rebondissement dans le feuilleton des Républicains mercredi, Valérie Pécresse annonçait sur TF1 qu'elle quittait le parti. Nouveau séisme à France Inter.
Là, mais quelle journée hier, quelle journée infernale. Valérie Pécresse qui démissionne des Républicains. Une fois encore une démission directe qui échappe à Léa Salamé. Je vous raconte pas dans quel état elle est ce matin, la pauvre Léa. Alors où je vous parle, là, on sait pas si elle sera présente dans le studio dans 2 minutes 30. Elle est allongée dans le couloir en position du lotus pour essayer de se calmer. Prions pour elle.
Et enfin cette semaine, un homme politique était à la une, Yannick Jadot, qui a le vent en poupe depuis son score aux européennes. Une prise de conscience collective concernant l'écologie. Mercredi, c'était la journée mondiale de l'environnement. L'analyse de Tanguy Pastureau.
Hier entêté est apparu le terme World Environment Day, jour mondial de l'environnement dans la langue d'Amel Bent. Mais très vite hier sur Twitter, le jour de l'environnement a disparu des sujets en vue, remplacé par le terme Dorcel Challenge, du nom de Marc Dorcel, un producteur de X. Ces films qui comportent peu de dialogue, à part « Ah !» ou « Oh oui, ici, oui !» plus rarement la phrase « Poussin, on fait un mille bornes ?» Donc on se dit « Zarma, c'est pas possible, la planète ne peut pas être battue par le porno, on a le sens des priorités !» Eh bien si, car Dorcel, à chaque personne tweetant le terme « Dorcel Challenge », offre une minute de porno pour tous. Et là, l'écologie ne peut pas lutter, l'homme est basique. Hein, vous lui dites « C'est la fin du monde », il répond « Ah, zut !» Mais vous ajoutez « Il y a du porno », il répond « Ah, bah ça va alors !» L'ultime possibilité pour Yannick Jadot de sensibiliser à l'écologie est donc radical. Il va falloir qu'il l'enfile, ce petit slip de cuir. Hein, tandis que Noël Mamère, en vidéo, lui susurra à l'oreille des choses sur la protection des milieux humides. Les deux se rejoignent, sur Terre comme chez Dorcel, il fait de plus en plus chaud.
C'était la semaine des humoristes de France Inter, à suivre dans le grand face-à-face, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Nous savons ce que nous devons à l'Amérique. L'Amérique, cher président Trump, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres. L'Amérique, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se montre fidèle aux valeurs universelles que défendaient ses pères fondateurs.
Emmanuel Macron, jeudi, un discours qu'il prononçait à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement, des mots qui étaient évidemment adressés à Donald Trump qui était présent à la cérémonie. Et Pierre Aski posait cette question dans le 7-9 d'Inter cette semaine. Peut-on être l'ennemi de son allié, Natacha? C'est pas le bac philo, mais... C'est paradoxal, cette situation.
Mais bien entendu, mais tout est paradoxal dans cette situation. Par exemple, il y a une puissance qui certes n'était pas sur les plages du débarquement, mais qui a légèrement aidé à la victoire et qui a donné un petit peu plus des siens, de son sang que les États-Unis.
Vous parlez de l'URSS, hein?
C'est la Russie. Pourquoi la Russie?
L'URSS.
Oui, l'URSS à l'époque, mais pourquoi on n'invite pas la Russie? C'est-à-dire, je pense que ça, c'est lié à cette question-là. Est-ce que nous considérons que nous devons traiter en ennemi une puissance qui était présente à l'époque, quoi qu'on pense de ce qu'était l'URSS? Et en effet, elle était à cette époque un allié et en même temps une puissance à laquelle, enfin, que nous ne pouvions pas considérer comme un allié anodin. Donc, faut-il réviser l'histoire et changer ce qui a été?
Gilles. Oui, le 70e anniversaire du débarquement, qui était un anniversaire particulier, il y avait à la fois Barack Obama et Vladimir Poutine.
Oui, mais ça ne se fait plus aujourd'hui.
Alors ça ne se fait plus.
Pourquoi ?
Peut-être que c'est aussi un anniversaire qui n'a pas la moindre ampleur, mais peut-être qu'il
croyez-vous
faut y voir,
que ce
mais
soit
peut-être
que ça.
Qu'il faut voir
cela
aussi,
étant, il aura fallu attendre 70 ans pour inviter un Russe.
Mais peut-être qu'il faut y voir aussi autre chose. Vous avez raison. Il y a dans la phrase d'Emmanuel Macron à la fois un remerciement, mais un remerciement avec une forme de perfidie, parce que le visage qu'il décrit de l'Amérique se situe un peu en contrepoint de ce que représente Donald Trump. Alors est-ce qu'on peut être
Mais vous êtes choqué que Vladimir Poutine ne soit pas invité à ces commémorations?
Je pense qu'il aurait été évidemment légitime, qu'il éminemment légitime qu'il le soit, compte tenu du rôle que l'Union soviétique a joué et que les soviétiques ont joué dans la lutte contre les nazis. Est-ce que l'on peut être l'ennemi de son allié? Et on peut poser la question autrement. Est-ce que l'allié, en l'occurrence les États-Unis, a encore envie d'avoir des alliés? Et ça, la réponse est loin d'être évidente.
Mais je pense que moi, je poserais pour ma part la question différemment. Est-ce que les États-Unis ont envie d'avoir des alliés ou des féaux? Est-ce que le but des États-Unis actuellement, et c'est aussi en partie ce qui explique l'absence de la Russie, est-ce que le but des États-Unis n'est pas aujourd'hui de se comporter comme une puissance impériale? Or, le discours...
Vis-à-vis des Européens?
Vis-à-vis des Européens, bien sûr. Il suffit de le voir dans toute la politique économique, dans la politique commerciale des États-Unis. Or, ce qui me gêne un peu dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il laisse entendre par ce que vous appelez Gilles une perfidie et qui est une petite pique comme il adore le faire face à Donald Trump, il laisse entendre par ce genre de petites phrases que depuis l'arrivée de Donald Trump, nous devrions changer notre position vis-à-vis des États-Unis. Donald Trump n'a pas inventé l'impérialisme américain, n'a pas inventé l'extraterritorialité du droit et les abus des États-Unis en matière commerciale. Et Donald Trump n'a pas inventé cette volonté hégémonique des États-Unis, qui est une façon, qui se joue aujourd'hui de façon plus violente à travers une forme de nouvelle guerre froide, mais qui était présente avant. Et Obama en a été un des acteurs ardents.
Gilles Finkelstein. Alors,
la volonté des États-Unis d'avoir des vassaux plutôt que des alliés, je crois qu'on l'a vu de manière extrêmement éclairante dans la partie britannique du voyage, lorsque Donald Trump s'est adressé à Theresa May, et notamment sur la question du Brexit, parce qu'on voit bien se dessiner l'avenir du Royaume-Uni, un pays vassal et un pays qui n'aurait plus comme option que d'être une grande zone franche.
Vous pensez au moment où Donald Trump a conseillé à Theresa May de claquer la porte sans accord?
Absolument, en disant à quel point ce serait extraordinaire parce que ça permettrait de doubler, de tripler les échanges entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais ce que l'on voit, c'est que la souveraineté solitaire qui serait celle du Royaume-Uni dans ce cas de figure-là ne serait qu'une souveraineté de papier et que la réalité serait une vassalisation.
Natacha?
Oui, mais en termes de vassalisation, je suis entièrement d'accord sur l'analyse concernant le Royaume-Uni. Je pense que l'urgence, c'est surtout de se demander ce que les Européens qui restent dans l'Union européenne ont à dire en termes de vassalisation et ce qu'ils entendent faire. Et encore une fois, le fait d'accepter ce climat de guerre froide qu'installent les États-Unis me semble un très mauvais signal sur l'indépendance réelle de l'Europe, qui devrait se poser des questions d'indépendance énergétique, en termes d'indépendance numérique. Enfin, le champ est vaste par lequel l'Europe devrait essayer d'échapper à cet impérialisme et à cette hégémonie totale qu'imposent les États-Unis.
Encore un mot sur la question, puisque c'est assez frappant de voir comme ces cérémonies de commémoration ne sont pas là uniquement pour rendre hommage à ceux qui, le jour, le D-Day, il y a 75 ans, ont débarqué en Normandie, mais c'est aussi une manière de poser des questions qui sont très contemporaines, des questions chaudes d'actualité géopolitique.
Elles sont les deux. C'est quand même un moment, et c'est un des derniers moments, et on le sent, et c'est ce qui fait l'émotion aussi de ces événements, dans lesquels les vétérans sont là, et donc il y a cette dimension. Mais évidemment, dans un voyage de cette ampleur, il n'y a pas que ça. Ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne doit se poser ces questions. Ensemble, elle peut le faire, séparément, la question ne se pose même plus.
Nous sommes bien d'accord, il faut être ensemble. Simplement, la chance que nous avons vis-à-vis de cette Seconde Guerre mondiale, c'est que finalement, il y avait un méchant et donc les choses étaient simples. La Première Guerre mondiale, où les États-Unis sont intervenus, était plus complexe et nous sommes dans une configuration de ce genre-là. Le risque d'escalade des impérialismes, vis-à-vis de la Chine notamment, regardons cette histoire, pas seulement sous le coup de l'émotion, mais aussi en analysant géopolitiquement les choses.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
J'ai décidé de quitter Les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti.
C'était mercredi, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonçait qu'elle claquait la porte du parti Les Républicains. À droite, rien ne va plus, désastre au pluriel dans les urnes, élection après élection. Un parti sans leader et qui a peut-être reçu le coup de grâce cette semaine avec la démission de Laurent Wauquiez. C'est la droite ou les Républicains qui sont face à la catastrophe, Gilles ?
Ce sont les Républicains, mais enfin, comme l'ambition, au moment où a été construite l'UMP, les ancêtres des Républicains, était que ce parti couvre l'ensemble du champ de la droite, c'est la droite. Mais c'est pas la droite seulement, parce que, d'une certaine manière, l'évolution de La République En Marche fait que ce parti a occupé une partie de l'espace. C'est tout le problème des Républicains. Donc, c'est les Républicains. Dans la position de Valérie Pécresse, il y a une contradiction par rapport au choix qu'elle avait fait lorsque Laurent Wauquiez a été élu, puisque Xavier Bertrand avait quitté Les Républicains, elle était restée, et par rapport au moment présent où elle demande le départ de Laurent Wauquiez, et après son départ, elle choisit elle-même de partir. Mais je crois qu'il y a des choses qui viennent surtout de très loin, il y a des choses qui sont liées à cette élection, mais les choses viennent de beaucoup plus loin. Ça fait une dizaine d'années que la droite est entrée dans des crises profondes et des crises successives. Il y a eu, je crois, une crise idéologique dès 2010, le discours de Grenoble, je pense, constitue
de Nicolas Sarkozy, un
tournant. Dès l'année 2012, l'élection présidentielle, la défaite de Nicolas Sarkozy, il y a une crise sociologique dont on a vu le bout cette fois-ci, mais avec un électorat qui commence à n'être plus qu'un électorat composé de seniors. À la fois en 2014, puis en 2016, une crise de leadership avec les primaires. Il faut jamais oublier qu'au lendemain des primaires, seulement la moitié des participants aux primaires de la droite ont voté pour François Fillon. Donc, toutes ces crises-là, elles couvaient et elles se sont précipitées, c'est le cas de le dire, à l'occasion de ces élections. Et peut-être un tout dernier mot, si on rassemble tout ça, quel est le coupable ou quel est le vrai problème de la droite ?
C'est la question que je l'ai posée.
Eh ben, je pense que c'est la buissonnisation du nom de Patrick Buisson, c'est-à-dire que c'est sa ligne qui peu à peu s'est imposée et qui aboutit à une droite rétrécie.
Natacha ?
Alors, j'aurais une analyse différente, c'est-à-dire que je pense que le discours de Grenoble qui incarne cette ligne Buisson nous raconte exactement ce qu'elle est, cette ligne Buisson. C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est l'idée théorisé par lui, qu'il fallait se focaliser sur les questions identitaires. Pourquoi ? Parce que la droite n'avait plus rien à dire sur les questions économiques. Et donc le seul champ où la droite pouvait se différencier de la gauche, du centre, etc., c'était ces questions d'identité exacerbées de la façon la plus racoleuse qui soit. Donc ce qui doit nous intéresser, me semble-t-il, c'est pourquoi la droite n'avait plus rien à dire sur les questions économique.
C'est une bonne question, mais vous partagez quand même malgré tout l'idée de Gilles que Patrick Buisson est derrière tout ça, le responsable d'un choix stratégique funeste.
Je pense qu'il n'a fait que théoriser quelque chose qui était problématique, il n'a fait qu'orienter, répondre à une difficulté qui se présentait depuis bien plus longtemps. Et je pense que on a toujours raison de revenir à la réflexion économique. Qu'est-ce qui a empêché la droite de développer un discours qui soit un discours audible par ses électeurs ? Et quand je dis la droite, justement, il faut revenir à ce qu'a été l'UMP. La grande erreur de l'UMP, c'est que c'est un parti électoral. C'est-à-dire, le but, c'est de faire une coalition électorale pour gagner des élections. Or, historiquement, la droite, c'est au moins deux grands courants, c'était les gaullistes et les orléanistes, c'était le RPR et l'UDF, qui avaient des discours et des sociologies différentes. Or là, l'UDF, l'actuel UDF, a rejoint, c'est-à-dire la bourgeoisie libérale, a rejoint en masse Emmanuel Macron. Où est ce qui faisait la sociologie du RPR, c'est-à-dire les petits patrons, les indépendants, les commerçants, tous les professions libérales, tous ces gens-là? Mais ça fait longtemps qu'ils ont été abandonnés, que la droite ne leur parle plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un non-dit là-dedans, c'est la question de l'adhésion au modèle néolibéral tel qu'il s'incarne dans l'Union européenne.
Gilles,
comme c'était
d'accord.
Gênant, non. Il ne fallait pas en parler, donc on a mis sous le boisseau. Et du coup, le discours économique, c'était celui de la droite libérale.
Gilles.
Elle est chez Macron.
Mon désaccord porte sur le fait qu'en 2017, votre thèse aurait pu être défendue. Mais qu'en 2019, je pense qu'elle ne peut plus l'être parce que, précisément, la droite n'est plus libérale sur les questions économiques. Et que le tournant qu'a incarné Laurent Wauquiez, et pour le coup qui va jusqu'au bout de la pensée de Patrick Buisson, c'est-à-dire pas seulement identitaire sur les questions de société, mais aussi souverainiste sur les questions économiques, que c'est ce tournant-là qui a enfermé la droite.
Mais
et donc, en 2017, la droite
Laurent Wauquiez a jamais été souverainiste sur les questions économiques.
Est plus libérale qu'elle ne l'a jamais été. En 2019, ce n'est pas le cas. La question qui est posée avec la constitution de l'UMP, il y avait une visée stratégique et qui, dans la configuration politique de l'époque, on est après le 21 avril 2002, avait du sens, c'est-à-dire construire un grand parti de la droite et du centre, rassemblant un peu sur le modèle des démocrates chrétiens allemands ou des conservateurs britanniques, des sensibilités extrêmement diverses dans un parti très large et dans un parti attrape-tout, pour avoir une masse critique qui fait qu'on est en tête au premier tour et qu'on crée une dynamique pour le second. C'est ce pari-là qui a été perdu. Et la question qui se pose n'est pas seulement pour les Républicains, qui se posent pour l'ensemble des partis, c'est est-ce que l'ère des grands partis attrape-tout n'est pas terminée? Je regardais le résultat des élections dans les 28 États membres du Parlement au Parlement européen. Il y en a seulement 4 d'entre eux dans lesquels un parti a obtenu plus de 35% des voix. Et donc l'ère des grands partis attrape-tout peut-être est aujourd'hui dépassée.
Mais restons sur la droite française et LR.
Première chose, le courant traditionnellement RPR, c'est-à-dire gaulliste social incarné par Séguin, a été éradiqué. C'est-à-dire que l'UMP, c'est la victoire, c'est l'absorption de tout cela par le courant libéral, ou plutôt néolibéral, dans le sens où il acceptait les règles de la mondialisation telles qu'elles étaient.
Et je le maintiens,
tout cela s'est fait parce qu'il y avait un non-dit, c'était la question européenne. Si on acceptait l'Union européenne telle qu'elle était, on acceptait ce néolibéralisme, donc on se condamnait à ne plus poser ces questions-là. Et ça aboutit à ce que vous dites, enfin, pardon, mais il y a un moment où il va falloir définir le terme souverainisme. En quoi Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy sont-ils souverainistes? Je ne comprends pas. Ils défendent une ligne libérale bon teint, en même temps pas très claire. Parce
pas franchement libérale.
Si,
politiquement, ni économiquement.
Mais économiquement, c'est-à-dire libérale conservatrice, qui n'a rien à voir avec le courant gaulliste social, qui est un courant planificateur, qui est un courant colbertiste, qui s'appuie sur l'idée que l'État doit réguler. Donc ça n'a rigoureusement rien à voir. Et le terme souverainisme, encore une fois, il faut s'entendre dessus, ça désigne juste ceux qui estiment que la souveraineté du peuple et la souveraineté de la nation prévalent et que ça s'appelle la démocratie. Donc,
laissez Gilles vous répondre, j'aurai des questions ensuite à vous poser.
Oui. Gilles. D'abord, si on lit, et on l'avait fait ensemble, puisqu'on avait reçu François-Xavier Bellamy avant qu'il ne soit candidat, quand on lit « Demeure », le livre de François-Xavier Bellamy, on voit qu'il est très éloigné du libéralisme de François Fillon, d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy.
Mais il se fout des questions économiques.
Des questions économiques dans un discours qui est extrêmement critique sur le marché. Et Laurent Wauquiez, avant de devenir président des Républicains, a eu un discours très critique sur l'Union européenne. Tout ça a fait d'ailleurs qu'on n'a pas entendu les Républicains sur l'Europe et qu'on ne sait toujours pas, parce qu'il y avait cette gêne, quelle était leur position.
Mais tout simplement parce que Laurent Wauquiez a fait ce constat que tout le monde pouvait faire, qu'il y a une part de cet électorat traditionnel de droite qui avait disparu parce que, de fait, c'était des gens qui avaient, par exemple, voté non au référendum de 2005. Et que tous ceux-là, ils avaient été perdus. Donc il a essayé de les racoler. C'est-à-dire que quand on lit les positions de Laurent Wauquiez sur l'Union européenne, elles changent quand même du tout au tout. On en était plutôt d'accord. On a beaucoup de mal à voir où ça va.
Mais si on cherche les responsables...
Sur les questions économiques, moi, je suis persuadée qu'une des raisons de l'échec actuel, c'est justement l'abandon abandon de ces questions économiques. François-Xavier Bellamy, c'est pas quelqu'un qui se pose la question de savoir jusqu'à quel point l'État doit réguler, de quelle manière ça doit se passer, est-ce qu'il faut une planification, est-ce qu'il faut de l'investissement. Bon. Il s'est jamais posé ces questions-là.
Et les responsables, donc, n'est pas Laurent Wauquiez, c'est assez frappant, ni l'un ni l'autre, vous ne blâmez ce président qui est parti. Si. Non, mais le responsable.
C'est-à-dire que je pense
C'est François Fillon, ou c'est Nicolas Sarkozy, puisque Grenoble 2010, c'est Nicolas Sarkozy.
Disons tout simplement, il y a des causes profondes et il y a ensuite la cause conjoncturelle qui est, on va le dire poliment, la capacité qu'a eu Laurent Wauquiez à essayer de se contre-tourner tout ce qu'il semble croire, mais croit-il à quelque chose, de faire du gros rouge qui tâche, de faire de la caricature. Voilà, et je pense qu'à un moment, ça se paye.
Oui, Sarkozy, un peu, beaucoup. Fillon, énormément, parce que le tremblement de terre de 2017, et sur une élection qui était acquise, qui était certaine, il emporte évidemment une autre responsabilité. Mais il ne faut pas oublier Wauquiez, parce que ce rétrécissement, cette buissonnisation, elle a été poussée à son terme par lui.
Emmanuel Macron ? Plusieurs ténors des Républicains dénoncent le piège tendu par le président de la République pour les étouffer. Un président de la République, Emmanuel Macron, machiavélique, qui aurait réussi son pari de ne leur laisser aucun espace politique.
Vous avez raison de dire que les Républicains ne sont pas seuls, c'est-à-dire qu'ils sont dans un espace. Et si on regarde ce qui se passe à leur droite et à leur gauche, si je puis dire, évidemment, ça explique aussi les difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Le fait que La République En Marche a réussi à incarner le parti de l'ordre, parce que c'est eux qui ont géré le mouvement, essayé de contrôler le mouvement des Gilets jaunes, et le Rassemblement national qui a changé son discours européen, au moins en apparence pendant la campagne, tout cela explique aussi qu'une partie des électeurs de François Fillon de 2017 ait voté pour une bonne partie pour La République En Marche et pour une autre partie pour le Rassemblement national.
Natacha, et on passera ensuite au débat.
La République En Marche a incarner ce qui allait protéger les intérêts de la bourgeoisie libérale. La bourgeoisie libérale a donc voté pour la préservation de ses intérêts. Ça s'appelle du marxisme, une défense de classe. Voilà. Simplement, la question, c'est pourquoi la droite s'est réduite petit à petit à cette dimension de réponse aux intérêts de la bourgeoisie libérale, alors qu'a priori, historiquement, c'était un peu plus large que ça.
Un dernier mot, Gilles ?
Oui, je crois que le problème, c'est que aujourd'hui, elle ne parle où elle n'a essayé de parler qu'à la France rurale, qu'à la France âgée et qu'à la France conservatrice. Tout cela, au final, ça ne
La France rurale, elle ne lui parle pas tellement.
Elle a essayé de lui parler sans succès.
Non, parce qu'elle a oublié la question sociale et économique.
Natacha, même pour les seniors qui étaient le dernier bataillon des Républicains, eh ben, eux-mêmes ont fini par l'abandonner.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec le philosophe et sociologue Jean-Pierre Le Goff.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
On n'est pas venu ici pour supplier les chefs d'État de faire attention. On est venu vous dire que le changement arrive, que ça vous plaise ou non.
Les adultes nous disent qu'ils nous doivent de l'espoir. Je ne veux pas que vous ayez de l'espoir. Je veux que vous paniquiez.
Celle qui nous disait de paniquer, c'est Greta Thunberg, cette adolescente suédoise devenue l'icône de la mobilisation des jeunes pour le climat. Et son combat est un signe parmi d'autres de l'importance prise par les questions écologiques dans le débat politique, des questions portées souvent par des jeunes générations. Le temps de l'écologie est-il venu ? Notre invité est philosophe, sociologue, et il nous met en garde contre ce qu'il appelle l'éco-idéologie. Bonjour Jean-Pierre Le Goff.
Bonjour.
Et bienvenue, nous avions envie de vous entendre et d'échanger avec vous parce que vous avez un point de vue, une thèse qui détonne dans le débat public en l'occurrence. Vous définissez cette éco-idéologie comment ? Juste un petit travail de définition qu'on s'entende.
Je pense qu'il faut distinguer plusieurs niveaux quand on parle d'écologie. Alors il y en a qui vont vous dire c'est une science, effectivement, notamment d'interaction entre les différents éléments de la nature. C'est aussi un constat d'un certain nombre de réalités tout à fait incontournables, le réchauffement climatique. Alors on peut discuter des causes, mais enfin il y a le réchauffement climatique, il y a la biodiversité, il y a la question de l'agriculture, de l'alimentation, il y a la question des énergies fossiles, donc il y a un paquet de questions. Ces deux premiers niveaux-là, à mon avis, l'écologie n'appartient à personne, puisque c'est des problèmes avec des réponses politiques différentes, mais sur la base de ces mêmes problèmes. Restent deux éléments différents, qui sont ce qu'on appelle l'écologie politique, et ce que j'appelle l'éco-idéologie, avec une dimension, je veux dire, de religion séculière. Bon, voilà. Donc, moi, je me suis intéressé sur le deuxième niveau.
Autrement
parce que
dit,
qu'est-ce qui
se passe? Une religion écologique. Ah, qui bah,
je parle de religion séculaire. Oui, je peux détailler si vous voulez. Mais avant, je voulais simplement dire la façon dont ça fonctionne. On prend le problème réel et on glisse, on vous fait avaler un certain nombre de couleuvres à partir des problèmes tout à fait réels qui demandent des réponses absolument politiques et qui posent d'ailleurs des questions civilisationnelles. Et
que on vous fait avaler le reste. Exemple, accélération du réchauffement climatique, ça c'est un problème réel.
Oui, voilà.
Mais comment est-ce qu'il est investi et transformé par les éco-idéologues et leurs prophètes?
Développement massif des éoliennes, quel que soit le cadre dans lequel vous pouvez le développer, avec une fonction, avec une productivité des éoliennes qui va pas de soi. Donc ça se discute. C'est pas une... Je veux dire, il n'y a pas d'évidence naturelle et il n'y a pas de lien direct avec ça. De même que, si vous voulez, moi, le réchauffement de la planète, qui est quand même de l'argument massu, l'introduction des ours et des loups, on peut le comprendre dans le, si vous voulez, dans la biodiversité, mais enfin, dans les zones d'élevage, ça va pas de soi, vous voyez. Et si je dois accepter un certain nombre de choses au nom d'une sorte de chantage, je vais vous dire n'importe comment, le problème est très simple, la planète est en feu.
Oui.
Et paniquer devient un bon sentiment. Voilà, eh ben, c'est plus
un
de la
bon
politique.
Sentiment.
Ah ben, c'est-à-dire que dans les mots d'ordre des jeunes, vous aviez il est grand temps de paniquer, qui est repris de cette jeune fille qui est devenue
Greta Thunberg. On va en parler justement de Greta Thunberg. Alors, Natacha, je crois, est pas loin de partager votre avis sur le statut de cette icône.
Alors, sur Greta Thunberg, je pense que la façon dont elle, mais c'est juste une parenthèse, la façon dont elle est mise en avant relève du marketing et que je ne pense pas qu'on puisse parler d'écologie en se fondant sur ce qu'est Greta Thunberg. Donc parlons réellement d'écologie et pas de cette gamine qui est instrumentalisée par des agences de com.
On va y revenir après tout. Elle a interrompu sa scolarité pendant un an pour se consacrer à son combat. C'est aussi une militante. Ravis. Gilles.
Oui, si on part, c'est pas mal de le faire, si on commence par le réel.
Voilà, commençons par.
D'abord par les problèmes réels.
Le réel, on est d'accord.
Ah non,
moi,
non,
ce qui m'intéresse, Jean-Pierre Le Goff définit comme une religion avec ses prophètes, l'éco-idéologie.
Avec une dimension religion séculaire, oui.
Attendons, mais disons quand même un mot du réel, parce que selon la manière dont on l'appréhende, on n'en tire pas nécessairement les mêmes... Je pense qu'il y a un relatif consensus scientifique, non seulement sur le fait qu'il y a un changement climatique et une accélération de ce changement. Attendez. Non seulement aussi, et il y avait une petite ambiguïté sur le fait que l'origine de ce changement, c'est l'activité humaine, sur le fait qu'il y a urgence, au sens où la production de CO2, c'est un stock, c'est pas un flux, et donc tout ce qui est produit à un moment, eh bien, c'est là que ça crée l'irréversible, et que les efforts qui sont fournis sont insuffisants et même très insuffisant.
Mais nous ne sommes pas là pour parler du consensus, mais du dissensus, Gilles.
Si on dit ça, derrière, il peut y avoir du dissensus, parce que après, on peut dire, il y a beaucoup de critiques à faire sur Greta. Mais quand elle dit paniquons, je ne sais pas si c'est bien de paniquer, mais en tout cas, agissons et agissons vite et agissons réellement.
Jean-Pierre Le Goff.
Le terme paniquer, c'est, j'y rajouterais les bons sentiments. Ça fait pas une politique, parce que l'important, c'est trouver des solutions.
Pourquoi les bons sentiments?
Rentrer dans le champ politique, et c'est tout autre chose que paniquons avec une espèce d'idéologie qu'on pourrait discuter, sentimentaliste, victimaire, en gros. Nous, les jeunes, et ça date pas d'aujourd'hui.
On peut dire aussi
que
c'est ouvrir les yeux sur la réalité.
Non, ça va bien au-delà de ça. Non, ça va bien au-delà de ça. Ça veut dire que nous sommes les victimes de vous, les adultes. Il y a une mise en accusation, c'est-à-dire ce courant s'inscrit dans une logique, un air du temps, sentimentalisme et victimaire, qui renvoie aux adultes l'image de l'éco-citoyenneté qu'ils ont développée dans la société depuis à peu près 30-40 ans. Et donc, ils renvoient dans la figure en disant, bah voilà.
Mais Natacha. Je pense que, enfin, moi, je ne prendrais pas le problème de cette façon-là exactement. Dans le sens où il me semble que, par exemple, la focalisation sur la question du climat, qui est devenu le point essentiel dont on parle, me semble là aussi une façon spécifique de parler d'écologie. Je pense que la question de la biodiversité est au moins aussi importante, la question de la préservation des sols est au moins aussi importante, et le fait de se focaliser sur le climat avec un discours qui consiste à dire attention, il faut réguler, etc., permet ensuite de faire des grandes COP21 où on va s'échanger des droits à polluer, des droits à produire du carbone. Or, pour ma part, j'ai tendance à penser que le véritable problème auquel nous sommes confrontés, c'est que si on veut réellement parler d'écologie, il faut parler avec de système économique. C'est-à-dire que à partir du moment où on est sur un système de consommation-production fondé sur une croissance illimitée, ça ne peut pas marcher.
Ok, donc, mais je veux malgré tout qu'on aborde la question de l'éco-idéologie,
Natacha. Oui, mais je termine juste ma phrase. L'éco-idéologie, pour moi, c'est quoi ? C'est cette dimension morale et non politique qui consiste à dire « nous devons prendre en compte, il faut paniquer, etc. » Là, je suis d'accord avec Jean-Pierre Le Goff. Alors que je pense que l'urgence, c'est de donner des réponses politiques qui vont être douloureuses pour tenir compte du fait qu'il y a une urgence majeure.
Alors sur la question du climat, moi je pense qu'effectivement, par principe de précaution, d'accord. Simplement, il faut faire juste attention à une chose, c'est à propos de la science écologique. Il y a un débat, non pas sur le réchauffement climatique, mais sur les origines. Je suis pour le laisser libre et pas qualifier trop vite les gens qui sont pas d'accord. Par contre, ça veut dire du point de vue de l'action politique, oui. On est en urgence.
Je veux qu'on parle du discours des écologistes. Alors, on n'est pas là pour parler du discours scientifique, en l'occurrence, ceux qui vous paraissent comme des prophètes, ceux annoncent l'apocalypse et la fin du monde pour faire prévaloir leurs idées. Voilà. On peut dire qu'ils pratiquent ce qu'on appelle le catastrophisme éclairé, c'est-à-dire éveiller les consciences, alerter pour agir avant qu'il ne soit trop tard, Jean-Pierre Le Goff.
Oui, mais on fait pas moi, dans mon temps, si vous voulez, on disait, on fait pas la politique avec des bons sentiments et la peur est mauvaise conseillère. Moi, j'ai toujours entendu ça, mais ça, c'est l'ancien monde, hein. Allez-y, les bons sentiments. Et la peur est bonne conseillère. Je crois précisément l'inverse, surtout quand on a des défis considérables à traiter. Et donc là, il faut prendre le temps d'un recul réflexif et critique, et là, il n'y en a plus. Parce que le bon sentiment, ça écrase tout, si vous voulez. Hein. De même, la victimisation généralisée. Donc le problème, à mon avis, de l'éco-idéologie, il faut revenir aux sources. Dans quel moment est apparue l'écologie politique ? Elle est apparue au milieu des années 70, dans la foulée de mai 68, elle a renversé totalement la perspective. Il y avait un certain nombre d'événements très importants à l'époque, qui était la fin des Trente Glorieuses, qui était le rapport de Rome sur la croissance, qui était déjà là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez la gauche, les représentations qu'ont façonné la gauche depuis l'époque, c'était quoi ? C'était pas simplement la gauche, c'était la vision d'un progrès indéfini dans lequel s'inscrivait une forme d'émancipation. Hein, et il y avait la classe ouvrière, il y avait les couches populaires. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? C'est un grand renversement. Où, finalement, ce n'est plus la marche inéluctable du progrès, avec ce qu'on pouvait discuter dans cette marche inéluctable, avec des formes d'hubris, de démesure. Mais tout d'un coup, on renverse la vapeur. C'est une espèce de messianisme à l'envers, où, en disant, attention, l'histoire ne marche plus comme avant, elle marche vers la catastrophe. Réveillez-vous. Oui. Éveillez les consciences, parce que sinon, c'est la catastrophe. C'est un changement considérable de représentation. C'est pour ça, quand on dit que la gauche doit intégrer l'écologie politique, ce à quoi je suis tout à fait d'accord, faut bien voir le changement de paradigme, mais sur quelle base ? Exemple concret, on est contre le progrès, à ce moment-là, on va vers l'optique de la décroissance, ou bien on dit il faut repenser le progrès différemment. Mais vous allez me dire, c'est une nuance, mais elle est fondamentale, elle est fondamentale.
Oui, mais elle est fondamentale, mais justement, tout l'enjeu va être de penser une écologie qui soit liée à la question de l'émancipation. Et en effet, le rapport au progrès est au cœur de tout ça, et le rapport à la technologie. Pardon, mais l'évolution idéologique, on peut aussi aller relire Jacques Ellul et aller lire ce qu'il a écrit sur la question de l'aliénation par la technologie. Et je pense que c'est en réfléchissant à ça qu'on peut lier les deux. C'est-à-dire que la consommation, aujourd'hui, fonctionne comme une forme d'aliénation. Donc, il est absolument nécessaire de penser un système où les individus s'émancipent en reprenant leur autonomie sur leur façon de vivre, sur leur consommation, sur les objets qu'ils produisent et sur ceux qu'ils utilisent. Et c'est là qu'on lie la question sociale et la question écologique.
Oui, mais alors ça ne va pas de soi du tout, parce que ça, je suis d'accord sur le principe, sauf que c'est tenu par un certain nombre de catégories qui vivent plutôt bien. Et quand on critique, quand on dit « mais il faut de l'aide par rapport à l'avoir », il faut être antimatérialiste. Attention, parce qu'il y a des catégories sociales, on l'a vu d'ailleurs avec les Gilets jaunes d'une certaine façon. Ils ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et tout le problème, c'est comment on peut les intégrer à cette réflexion.
C'est là où je suis pas d'accord.
Parce que moi, je pense qu'il y a une façon, si vous voulez, de dire attention contre l'avoir, attention la société de consommation. Mais n'oublions pas non plus que, on a changé d'époque, hein, mais années 50-60, le caddie bien rempli, pour moi, faisait partie du progrès par rapport à mes parents, si vous voulez. Alors maintenant, on est arrivé à une nouvelle étape. Hein, on est arrivé à une nouvelle étape, on voit les défauts. Mais attention, quand on critique, il faut savoir ce qu'on critique. Ce n'est pas l'avoir en soi. Sinon, moi, on n'est plus du tout matérialiste. Enfin, moi, je ne suis pas particulièrement matérialiste, mais la consommation... Surtout que ceux qui critiquent la consommation ont généralement un niveau de consommation assez élevé. C'est pas du tout une critique de fond par rapport à la logique civilisationnelle. Mais il faut quand même prendre acte des fractures qui existent.
Gilles.
Oui, je crois que savoir qu'est-ce qu'on critique est une bonne question. Est-ce que c'est cette partie de la jeunesse...
Non, mais défendez l'écologie politique, éventuellement, Gilles.
Mais je vais le faire. Je vais le faire. Est-ce que c'est cette partie de la jeunesse que critique Jean-Pierre Le Goff, le fait que la jeunesse tienne un discours qui puisse être manichéen ou sentimentaliste, c'est pas propre ni à cette jeunesse ni à la jeunesse en général, c'est assez bien partagé en ce moment. Qu'elle tienne un discours sombre, voire parfois donneur de leçons, si on est effectivement dans la situation d'urgence que j'évoquais, elle a quelques raisons de le faire. Et donc, plutôt que de l'en blâmer, je pense que la question qui nous est posée est de savoir comment on agit et comment on agit rapidement. Et qu'est-ce que, et c'est ça la question à la fois sur les modes de production et sur les modes de consommation, qu'est-ce que nous changeons? Et il y aura des changements radicaux, des changements profonds qu'on va devoir mettre en œuvre. Pour un catastrophisme éclairé, vous avez dit Ali Badou. Pour un catastrophisme éclairé, c'était le titre d'un livre de Jean-Pierre Dupuis, il y a quelque temps. Et une des phrases de ce livre était « Il y a des moments dans lesquels nous ne croyons pas ce que nous savons ». Eh bien, c'est exactement la situation devant laquelle on est. Et ma crainte devant le discours de Jean-Pierre Le Goff, c'est que on soit en fait devant... Ce que Albert Hirschman disait dans deux siècles de rhétorique réactionnaire, qui est toujours une bonne raison pour ne pas agir. Et donc, je crois que c'est ça le péril devant lequel on est, et je crois qu'il faut agir.
Jean-Pierre Le Goff.
Je pourrais retourner l'argument, c'est-à-dire d'une certaine façon, il y a un refus de voir que sur des problèmes réels se grèvent des discours et des idéologies qui ne vont nullement de soi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de séparer autant que faire se peut ces deux aspects-là, c'est-à-dire faire la part des choses. Or, le discours écologique, d'abord de l'écologie politique, on pourra en discuter, mais aussi, je parlerai d'un certain nombre de référents quand même, Nicolas Hulot, je le trouve tout à fait passionnant quand il critique un certain nombre de choses, je regarde ses émissions, c'est tout à fait avec les animaux,
il n'en fait plus.
Bon, tout ça c'est très bien, la
depuis
nature,
longtemps.
Etc. C'est...
Il a fait le syndrome même... du Titanic justement pour décrire la situation dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puisque nous sommes comme les passagers du Titanic qui continuent à danser alors que il y a plus vers l'iceberg.
Moi, si vous voulez, ça commence avec... L'écologie politique en 73, le mot d'ordre, c'est l'utopie ou la mort. Excusez-moi, le choix est vite fait. Mais je dirais que ce choix-là remplace un autre qui s'appelait socialisme ou barbarie. Donc on est passé d'une certaine façon de cette logique à cette autre logique qui, à mon avis, pour moi, est une impasse. Non, l'utopie, c'est pas simplement l'idéal, c'est quelque chose qui va bien au-delà. Et moi, je me méfie, si vous voulez, des gens qui veulent faire le bien... malgré les êtres humains d'une certaine façon. Je dirais deux mots sur la religion tout à l'heure.
Jean-Pierre Le Goff, justement, si je parlais d'autonomie tout à l'heure, c'est en référence aussi à quelqu'un comme Cornelius Castoriadis, et socialisme ou barbarie. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que je crois fermement que c'est par cette question-là qu'on va reprendre la main et que quand vous dites que les gilets jaunes ne sont pas concernés par ça, au contraire, la récupération du lien social dans le mouvement des gilets jaunes, ça nous prouve justement que nous sommes dans un moment de prise de conscience que la société consumériste apporte certes du bien-être matériel, mais n'apporte pas ce dont a besoin un être humain. Et deuxième point, ce qui me gêne en revanche, et c'est pour ça que je suis critique sur ces mouvements de jeunesse, c'est qu'ils sont applaudis par des gens qui soutiennent ce système néolibéral, qui soutiennent ce système économique. Moi, je trouve ça formidable.
Jean-Pierre Le Goff soutient ce système économique. Non, du moment qu'on peut remplir son caddie, acheter une voiture,
ça participe
du bien-être matériel, dit Jean-Pierre Le Goff.
Il n'est pas le seul. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de supprimer le bien-être matériel, mais de le recycler. Mais en revanche, le soutien à l'économie ouverte néolibérale, tout en disant oh là là, l'écologie, faut s'en soucier. Pardon, mais c'est intenable.
Non, mais c'est pas
Jean-Pierre Le Goff.
C'est pas vous que je vise, Jean-Pierre Le Goff.
Oui, bien sûr, mais je rappellerai simplement un des slogans des gilets jaunes, des ronds-points du début. C'était quand même, ils nous parlent de fin du monde quand nous parlons de fin du mois. C'est simplement un constat d'un certain type de divorce qui existe. existe, bon, et qu'il faut prendre en compte. Et
c'est pas
comment
eux qu'on dit ça.
Précisément on réintègre ça. Maintenant, sur la question, je veux dire, religion séculaire.
Oui, la religion. Oui,
bah, prenons
religion
par exemple Nicolas Hulot, Syndrome du Titanic.
Oui.
D'abord, c'est
qu'était
une
le titre
vision,
d'un film qu'il avait réalisé, où il montrait les ravages sur les écosystèmes de
il y avait
de
aussi
de
le
vie
film,
et les activités humaines.
Il y a eu un film qui a été diffusé en prime time dans le monde entier, qui s'appelait de Bertrand, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, le photographe,
Yann
qui était des
Bertrand.
Images très belles, des vagues de tsunami, vous savez pas où vous êtes, il y a quelque chose qui est en... Tout est mélangé. La biodiversité, le tsunami, allons-y, et la destruction de la... Si vous voulez, et en plus, ça marche à l'image, à l'émotion. Alors j'y rajouterai une autre dimension, la spiritualité.
Il montre aussi des personnes qui vivent très concrètement les conséquences du réchauffement climatique. En l'occurrence, c'est l'expérience quotidienne de millions de personnes à travers le monde, Jean-Pierre
enfin,
Le Goff.
Moi, je veux bien, si vous voulez, la fin de la disparition de la planète n'est pas encore, et fort heureusement, l'expérience des millions d'habitants de la planète. Et ça, si vous voulez, c'est une forme... Je vois le danger, mais attention à l'argument massue, parce que de quoi on discute, là, après tout, vous savez, ça vaut même pas le coup de discuter, parce que n'importe comment, sauvons la planète, point. Alors, jouons tous du violon, on va répéter, sauvons la planète, sauvons,
oui,
la, planète,
sauvons la planète,
sauvons la planète. Réveillez-vous, réveillez-vous, voilà. Mais il faut dépasser ce simple discours pour rentrer dans la complexité des problèmes, analyser les choses et voir le type de solution. J'ai pas encore parlé de la...
Voilà, on y vient, la religion écologique.
Eh bien, je vais vous citer quelques points, tout simplement. Dans le syndrome du Titanic, tome 2 de Nicolas Hulot, qui par ailleurs peut être tout à fait intéressant d'un certain nombre de choses qu'il dit, il cite le jaïnisme, alors c'est une ouverture sur un certain nombre de religions, nouvelle spiritualité. Ce n'est pas moi qui l'invente. Jaïnisme, Sadhu, Bishnoï, plus Teilhard de Chardin et l'écologie du pape François. Vous avez un espèce de cocktail religieux à base d'écologie, mais vous le trouvez aussi chez Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, alors là, c'est un espèce de mystique. Alors, les politiques et un certain nombre de personnalités sont allés le voir. Très bien. C'est quelqu'un qui est très sympathique, il est rempli de bons sentiments. On dirait un Gandhi à la française, vous pouvez pas être contre. Moi, je suis pas contre Pierre Rabhi. Et puis, son histoire de...
Contre Pierre Rabhi.
Non, mais je peux vous citer...
Quand il est sur le yacht avec Leonardo DiCaprio, ça fait bizarre.
Ça veut dire que j'invente et que j'exagère.
Non, vous n'inventez pas, mais en tout cas,
il faut lire ces textes. Je me suis permis de prendre un certain temps à lire ces livres. Et je dois dire que j'ai découvert un truc extraordinaire. C'est, il y a un espèce de divin naturel lié à la Terre, et il ne s'en cache pas. Simplement, les gens l'ont pas lu dans le détail.
Vous
donc
voulez
ils
le retour
prennent...
à l'Ancien Testament, vous voulez le Dieu vengeur, le Dieu de justice pour ramener tout le monde à la loi et rappeler tout le monde au...
Ça, c'est le faux choix.
À l'héritage judéo-chrétien.
Le faux choix, c'est pas
mon
propos.
Ah bah, si vous critiquez les nouvelles spiritualités,
non, mais je peux vous parler du judéo-christianisme. Je vais vous parler du judéo-christianisme. Mais par exemple, je vais quand même vous citer une chose. Nous ne sommes pas des individus étanches. Nous respirons la même eau. Nos relations sont des flux d'énergie que nous partageons. Et il y a une remise en cause explicite des frontières de la nation et des différences de civilisation. Parce que si on est un élément d'un grand tout, eh bien, c'est la nouvelle fraternité qui est très différente de la fraternité socialiste, qui a été l'œuvre des hommes et un certain nombre d'idéaux d'émancipation.
Une planète.
Là, vous savez ce qui nous unit, c'est la naturalité de la planète qui est en feu. Ce n'est pas du tout le même type d'idéal. C'est pour ça que je demande à regarder de près comment la gauche. Et sur quelle base la gauche, par exemple, peut intégrer l'écologie ?
Gilles ?
Alors, je crois que Jean-Pierre Le Goff a raison de dire qu'il faut essayer de distinguer les niveaux d'analyse. Il y a l'écologie politique et il faut quand même se garder d'une illusion dans l'analyse du résultat de ces élections.
Oui.
Oui, il y a eu une surprise. Le score d'Europe Écologie Les Verts a été plus élevé, d'autant plus élevé que les Républicains, on l'a évoqué, se sont écroulés. Oui, il y a dans la hiérarchie des préoccupations des Français et des Européens un changement très important avec une montée des questions environnementales. Mais quand même, quand on regarde par rapport aux élections, aux précédentes élections, il y a 10 ans, c'est à peu près le même score, c'est même un peu moins bien. Quand on regarde dans le reste de l'Union européenne, le courant des Verts n'a des élus que dans moins de la
mais
moitié.
Mais vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Le Goff quand il dit que derrière l'écologie politique, il y a une forme de spiritualisme.
Il faut nuancer ça.
Oui.
Deuxièmement, sur l'idéologie écologiste, là, il faut regarder de près, parce qu'il y a un certain nombre de dérives, disons, anti-humanistes, et qui sont en rupture avec tout ce qui a été, non seulement la tradition
exemple.
De la gauche, mais même au-delà. Par exemple, lorsque Serge Latouche dit « il faut jeter le bébé et pas l'eau du bain », c'est-à-dire Le problème, c'est que il y a trop de naissances aujourd'hui et que donc il faudrait réguler un peu tout ça. Donc il faut regarder de près. Et puis il y a enfin, et ne l'oublions jamais, l'enjeu environnemental lui-même. Et la question qui nous est posée, c'est comment on allie la question démocratique, la question sociale et la question environnementale, parce que si on ne réussit pas à allier les deux, les trois, on n'avancera pas.
Non, mais là-dessus, je serais d'accord. Simplement, je pense que c'est pas si facile que ça.
Non, mais derrière l'écologie, vous dites que nous vivons une forme de déculturation.
Non, c'est pas
nous
tout à fait ce que
nous oublions nos racines.
Non,
cette écologie-là est en rupture.
Pas l'écologie comme telle.
L'éco-idéologie
sert de substitut, effectivement, sur la base d'une déculturation historique. Notamment, c'est à la fois le modèle, j'allais dire, républicain du progrès, parce qu'on peut remonter même aux Lumières, d'une certaine façon. Alors, on pourra discuter de l'idée de progrès en plusieurs étapes. Les philosophies de l'histoire, c'est pas tout à fait la même idée que les Lumières. Mais attention, dans la critique qui peut être menée sur le productivisme, il faut savoir jusqu'où on va. Et si c'est Descartes, ça commence à Descartes, qui a séparé l'homme et la nature, mais je vous signale, c'est quand même comme ça qu'on a pu se développer, qu'on a vaincu le paupérisme. Donc effectivement, maintenant, on est une nouvelle étape, beaucoup plus critique vis-à-vis de ça. Mais là aussi, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit. Quant à ce que vous avez dit sur l'écologie politique, je distinguerai deux choses. L'écologie politique, c'est un parti politique qui a des propositions comme n'importe quel parti politique, qui se veut ni de gauche ni de droite, etc. Et je distinguerai ça d'un élément plus global, qu'est-ce que j'appelle le fond, la petite musique de l'air du temps. Par exemple, exemple très concret, quand je vais souvent dans les gîtes ruraux, j'ai droit à une leçon de morale quand je rentre sur une affiche. La nature vous a donné ça, préservez-la et vous lui devez bien ça. Moi, personnellement, je suis pas venu pour entendre ces leçons de morale.
Vous êtes venu chasser ou...
Non, je suis pas chasseur.
C'est des canettes dans la nature.
Voilà.
Natacha. Je ne suis pas particulièrement adepte des leçons de morale et de l'écologie des petits pas, parce que je pense que ça ne suffit pas. Mais ça me paraît tout de même évident qu'il doit y avoir une éducation des êtres humains aux conséquences des progrès techniques. On voit très bien comment il a fallu un temps immense pour prendre conscience des ravages de la production de plastique. Et il faut une adaptation. Et on voit bien comment des pays qui sont aujourd'hui des pays développés en prennent conscience, alors que des pays moins développés n'en sont pas encore là et se retrouvent avec des afflux de plastique absolument énorme, sans avoir la culture qui consiste à se dire que ces déchets-là ne sont pas biodégradables.
Mais,
donc tout ça, c'est un travail essentiel.
Mais je suis absolument pas en désaccord. Simplement, quand moi je parle, il faut quand même oser aussi regarder, tenir l'ensemble des domaines. Il y a aussi de l'idéologie. J'aimerais regarder d'ailleurs, entre parenthèses, j'avais regardé comment le développement durable était enseigné à l'école.
Jean-Pierre Le Goff.
J'avais regardé comment le développement durable était enseigné à l'école. Excusez-moi, ça va au-delà de tout ce que vous dites.
Mais c'est le seul domaine qu'on retrouve dans toutes les matières et à tous les niveaux de l'éducation nationale, le développement durable, dans tous les programmes. C'est incroyable. Mais, enfin, c'est pas incroyable, ça raconte quelque chose.
Vous applaudissez?
Je n'applaudis pas parce que, encore une fois, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas justement par par ce moralisme. C'est en pensant politiquement les choses.
Est-ce que c'est juste moral de dire que le plastique est une catastrophe?
Mais je suis la première à dire que le plastique est une catastrophe. Simplement, si on considère que le plastique est une catastrophe, excusez-moi, on en tire les conséquences. Donc on évite de faire pas traverser les océans par des porte-containers avec des kilos et des kilos d'objets en plastique. On accepte de payer le vrai prix des choses, par exemple des jouets qui sont fabriqués proches d'ici et en bois. Donc on fait la démondialisation. Donc on relocalise l'économie, c'est tout. Donc ça nécessite des choix politiques et économiques.
Jean-Pierre Le Goff.
Faire la part des choses entre les défis réels, les réponses politiques à apporter et ce que j'appelle une éco-idéologie est absolument salutaire dans le débat public aujourd'hui. Si on même on veut défendre les idéaux de l'écologie au bon sens du terme. Voilà ma position.
Les trottinettes? Vous appelez
les trottinettes, c'est totalement secondaire.
C'est pour plaisanter, mais c'est
pas le problème des trottinettes, c'est le problème du civisme à l'intérieur des villes.
Oui, et la durée de vie d'une trottinette, alors c'est un chiffre qui vaut pour les
États-Unis. La durée de vie des piétons et de ceux qui utilisent les
dans certaines villes américaines, on a mesuré la durée de vie d'une trottinette 28 jours. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un modèle d'écologie.
Gilles,
alors, en tout cas, si c'est ça, c'est pas un modèle d'économie.
Juste d'un mot, si
l'objet de la critique de Jean-Pierre Le Goff porte sur l'éco-idéologie, le problème c'est si son effet, ça serait de limiter toute, adaptation, comme l'a dit Natacha, mais je crois que ce qui est devant nous, c'est beaucoup plus que des adaptations, c'est une mutation très profonde de notre modèle.
Jean-Pierre Le Goff.
Je veux dire, moi, je me méfie des ruptures radicales et d'un changement, le mot radical, parce qu'on réinvestit une logique de rupture révolutionnaire sous une forme beaucoup plus lisse, qui n'est pas la même chose, et qu'il peut y avoir, je dis, potentiellement une utopie un peu totalitaire. Voilà.
Oui, vous exagérez un petit peu.
Mais je signale que Cohn-Bendit, qui n'est pas dit là, là, on peut rien dire. Lui, il a le tampon.
Sur Daniel Cohn-Bendit, hein.
Il parle attention. Si je veux le bien de l'humanité, il faut que je me pose la question au nom de quoi ? Non, il faut que je rentre dans le débat. Il faut que j'argumente.
Pardon, Jean-Pierre Le Goff, mais Daniel Cohn-Bendit est le prototype de celui qui se prétend écologiste alors qu'il adhère à un système totalement ultra, enfin néolibéral avec tous les ravages écologiques.
C'est un autre débat. On aura l'occasion de reprendre cette thématique-là de toute façon maintenant que nos consciences ont été éveillées.
Ah, vous avez éveillé les consciences.
Et grâce à la jeunesse, Jean-Pierre Le Goff. Merci d'avoir été notre invité. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. À la réalisation, Alessia Vulot. À la technique, Rémi Sistiaga. Quant à moi, je vous dis à demain midi pour Questions politiques. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.